Parti 6 mois de ma ville, la pellicule défile. J'essaye de me faufiler dans ces quartiers vidés. Mais cette jolie cité s'est transformée. Elle évolue plus vite que le prix de l'essence. La ville de mon enfance a-t-elle encore du sens? Non? Si? Je sais pas. Ok. Et si l'urbain est en déclin, c'est pas qu'à cause de Monsieur Klein. Donc viens, je te fais une visite de ma ville au féminin. Et je me promène avec problème le long des futurs termes. Mon épiderme de lycéenne discerne cette contraignancienne. À côté de la caserne déferle bientôt la mer Caspienne. Ça me casse les couilles et je me consterne devant cette pratique diluvienne. Pseudo-mécène, réel, obscène, valeur moyenne, on se fait malmène. Bientôt mon compte bancaire a découvert pour me découvrir dans le bassin découvert. Nancy thermale, t'es malheureux, t'es ma terre natale devient létale. Aïe, aïe, aïe. Un remède au poison, la piétonisation. Ta voiture va, tu pars, de toutes parts modales. Et ton pied sur la pédale, glisse manière viscérale. Pour fouler les dédales de Nancy capitale. J'aurais aussi kiffé vous parler de meurtre canal. Mais la dynamique fluviale n'est plus halle. Depuis que je peux plus y boire ma canne et deux goudales. Sans y croiser un seul chacal. Et un vide abyssal s'est installé à l'est de ma cité ducale. Et y a des choses qui changent et d'autres qui n'ont pas changé. Pourquoi il y a des rues de Nancy qui portent encore le nom de collabo de la France de Vichy? Rue du docteur Schmitt, ça fait un peu trop antisémite. Mathieu, faudrait peut-être penser à la renommée. Et je terminerai en complétant ces doux mots de Baudelaire pour mes compères de beaux regards, mais aussi ceux de mon désert. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Mais si j'habite encore ici, c'est sûr que c'est pas accidentel, mais bien parce que les Nancéens et Nancéennes sont exceptionnels. À la veille du deuxième millénaire, son babybel parcourt ses veines, âgée de 5 balais et fillette de l'Est, cette mistinguette s'appelle la Lorraine. Elle venait de voir passer le papa Noël dans le ciel, c'était avant d'apercevoir ce parcellaire de la sapinière paralysée par cette tempête urbaine qualifiée de putain de phénomène. Elle regarda son papa, dans ses yeux le cauchemar, elle demanda « Va-t-on replanter ce délogé par ce lotard ?»« Ma fille, une tempête t'empêche pas de t'épancher sur le chantier à effectuer pour enchanter ton chemin chamboulé et chahuté. Parcours semé d'embûches, les bûches on va les semer pour que cette forêt se relève de sa chute. La Lorraine est résiliente et tempérée et je te le promets, elle va encore pousser pour quelques belles années. » Janvier 2003, à la recherche d'un roi pour jouer la princesse à la kermesse de son école à Metz. Lorraine a maintenant 8 ans et reste menée sa vie d'enfant dans un palais doré de l'Occident. Elle se voyait déjà couronnée dans le premier château visité, le sien, bien sûr, celui du Saint-Duché Lorrain. Mais ses rêves de devenir princesse Ariel, la petite sirène, sont partis en fumée quand les sirènes des pompiers ont résonné dans toute la cité. Et le ciel de lune et ville s'est assombri comme un tunnel quand la chapelle du château se change en gros chalumeau pour réchauffer chaque nuage. Déchargée d'eau, elle regarda sa maman, dans ses yeux l'effroi brûla. Elle demanda « Maman, la Lorraine peut-elle mener son compte de fées si tout son patrimoine, il part en fumée ?»« Ma fille, pour un chapitre réussi, ce qui compte, c'est pas le titre nié, mais bien les qualités. La Lorraine est généreuse et consciencieuse comme tous ses habitants, gardiens d'un patrimoine qui mériterait au moins la palma cane. » 2012, le bac en poche, un EPS, sa meilleure note, Lorraine a 18 ans, et glisse son premier bulletin de vote quand ArcelorMittal ferme à ses portes, après des années de lutte sociale contre le capital. Ce soir, mon flow, pour formuler comment l'État a refoulé ses ouvriers du fleuron lorrain de Florange en les foutant dans le flou et un florilège de fioritures autour de leur futur obscur, les ont eu à l'usure. Et les usines ont fait grismine quand elles ont dû partir en Chine. Miskine, Lorraine demanda à son frère comment elle allait faire, car le faire avait forgé son savoir-faire et sa fierté. Ma sœur, c'est pas tant pour son savoir-faire que la Lorraine est fière, mais bien pour ses travailleurs légèrement frondeurs, désindustrialisés, mais pas instrumentalisé. Ta bâche au destané, tu peux philosopher et te rebeller. La Lorraine est révoltée et insurgée et elle doit pas hésiter à se soulever pour toutes ses idées. Janvier 2016, à moitié journaliste, à moitié optimiste, Lorraine a maintenant 22 et elle a validé son premier Master 2 en moins de 2 années. Bien joué. Master Géographie a vite très qualifié sur cette réforme territoriale des plus bancales. Elle voulait pas de mariage à Troyes avec la ville de Strasbourg-Troyes. Lorraine pensait que petite Mirabelle serait étouffée par cette ribambelle de terre artificielle et superficielle et qu'elle finirait paumée dans les caveux pommeries ou bien minée par le Gewurztra mineur. Lorraine demande à sa sœur si son identité si singulière se devait d'aller voir ailleurs. Ma sœur, aime tes voisins, aime ton prochain, car souviens-toi, il y a 100 ans, dans les tranchées de Verdun, on a perdu plus de 800 000 gamins venus de France et d'outre-Rhin, du continent africain et du Tonkin pour récupérer nos amis alsaciens. La Lorraine est solidaire et fraternelle et elle tendra toujours la main à celui dans le besoin. Tempérée, résiliente, généreuse, consciencieuse, insurgée, révoltée, solidaire, fraternelle. La prochaine fois qu'on vous demande comment est là, Lorraine, je veux pas entendre ni un mauvais temps, mais plutôt qu'avec elle, votre temps est rayonnant. J'aime les clics, claques de ma clique, les clics, claques de ma clique, m'accueille, il me recueille sans les... Sans écueil, avec l'option esquive du jeune, j'aime le clic, clac de ma clique, les clics, clac de ma clique, m'accueille un lit, des draps, c'est pas creepy, c'est chic. Chaque fois, j'y passe la nuit sans hic. Je vous ai parlé de Nancy et de la Lorraine, je poursuis mon emboîtement d'échelle. Ce texte pour faire l'éloge de mes camarades et cafarder l'état des mal logés dans mon pays, à 6 côtés, qu'a choisi de sous-côté le droit de s'abriter. J'ai eu ce déclic quand j'ai compris qu'en France, les rances résidentielles avaient tendance à être accidentelles, susceptibles d'entendre le tic-tac de l'horloge, la rue dit bon des loges. T'as pas de logis, let's go, rubrique nécrologie. Susceptible de grignoter de la gnognotte, style Mac Manioc, parce que t'avais pas un copec dans ta cagnotte, mec. J'kiffe les clic-clacs de Paris chez mes meilleurs amis Manu, Chloé et Noémie. Chez elle, c'est mieux qu'à la mairie des Balkany. J'apprécie aussi vraiment le canapé de mon poteau Clément et celui à Fresnes de mon ami Raphaël. Au Marcy, il rit, il dit pas de bras, pas de chocolat, on y merci, en Seine-Saint-Denis, je te dis pas de drap, pas de tante Quechua. Interdiction absurde, maison insalubre. Les clics-clacs du sud, ils claquent aussi, ils perdent par nord. Je kiffe le photon de ma sœur Lily à Avignon. Je kiffe le sofa de Limoges de ma pote Lisa. Je kiffe le matelas de ma popo à Bayona. Et je kiffe le plumard de mon ami Meme, ami le KME. 3, 3, 0, 0, 0, 0. Ça ressemble au code postal de Bordeaux, mais il y a un zéro de trop. En vrai, c'est le nombre de SDF en France et je trouve que ça fait déjà beaucoup trop. Je me couche à l'ouest comme le soleil, direction Rennes, Le Mans, Rouen, chez Clem, JR et Clément. Vos divans sont divins. Je vous vois comme des devins capables de voir ceux qui sont rendus invisibles par ceux qui crachent leur venin sur des humains à l'avenir incertain. Je me lève à l'est, Strasbourg, quartier, Neudorf, Méno, Krutno. Je kiffe trop le dodo chez mes potos, crains le Nadine et mes Pinko du Yellow. En vélo vers le Palais U, joyeux ce SDF jouait sa partie d'échecs. Est-ce qu'il est mort dans le caniveau ou est-ce qu'il dort bien au chaud? Dans tous les cas, j'espère qu'il s'est pris des vacances dans un putain de logement vacant. J'aime les clics, claques de ma clique, les clics, claques de ma clique, m'accueille, il me recueille sans écueil avec l'option esquive du jeune. J'aime les clics, claques de ma clique, les clics, claques de ma clique, m'accueille, un lit, des draps, c'est pas creepy, c'est chic, chaque fois j'y passe la nuit sans hic.
Pour moi, la poésie, c'est s'amuser un peu avec les mots.
C'est un peu aussi un jeu.
La poésie, c'est ce que je suis. C'est ce que je pense, c'est ce que j'observe. C'est ce que j'entends. C'est moi et un peu des autres.
Voilà.
Littérature, le podcast Poésie sur RCN.
Lorraine grandit à Laxou, à la périphérie de Nancy, enfance timide, entourée d'amour et de livres. Goût prononcé pour les mots, transmis par sa mère qui lui répétait sans cesse « Tout le monde aime lire. Il faut juste que tu trouves quel livre te convient. » Au départ, rétive aux ouvrages, elle trouve ceux qui lui correspondent, ceux qui racontent les territoires et se retraçant l'histoire culturelle et sociale du monde. On n'échappe pas à la lecture. L'écriture, plus tard, celle qui se nourrit de rencontres et de musique. À deux âges, Lucio Bukowski, 1995, pour référence, d'auditrice à auditoire, passée derrière le micro depuis un an, elle distille ses mots sur la scène du Royal tous les mois de sa belle scansion. Géographe de profession, elle a décidé de mettre sa ville de l'Aksou sur la carte de la poésie. On est ravis de te recevoir dans notre émission. Bienvenue Lorraine.
Sujet, verbe, complément.
Sujet, verbe, complément.
Sujet, verbe,
sujet,
complément.
Verbe, complément.
Littérature, le podcast Poésie sur RCN.
Du lourd, du très lourd, que ce soit. Lorraine, c'est un plaisir de te recevoir. Bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir d'être ici aussi.
Franchement, du lourd, à travers aussi la présentation incroyable que Mouloud a fait de toi et qui était impressionnante. Merci Mouloud également.
Pas de
merci
rien.
Mouloud.
Bonjour à tous. Et puis, quelle diction, quelle scansion tu nous as fait là.
De fou.
Au début.
Ouais, ça va être un plaisir de pouvoir rentrer justement dans le bain de ta poésie à travers notre petite conversation. Donc la première rubrique, c'est toujours sujet, verbe, complément, comme le disait ma maman. C'est ainsi qu'on commence une conversation, comme si qu'on rencontre une personne. Et tout d'abord, pour démarrer, Lorraine, eh bien, qui es-tu? D'où viens-tu?
Eh bien, bonjour à tous les deux. Donc je suis Lorraine, j'ai 28 ans. Là, j'ai l'impression de réciter un discours de Miss France, c'est un peu stressant. j'ai grandi à Nancy, enfin à l'Aksou pour être plus précise. Je suis volleyeuse et je suis géographe.
D'accord.
Okay. Pour faire très court.
Très bien. Eh bien, toi qui, du fin fond de l'Aksou, représente ici ma gueule, tout simplement, toi, comment tu as, là d'où tu viens, donc que ce soit à travers ta famille, ton entourage familial, que ce soit les parents, l'école, les amis plus jeunes. C'était quoi les objets de consommation culturelle dans lesquels tu as baigné? Que ce soit les livres, les CD, les sorties culturelles. La culture, c'était quoi autour de toi?
Alors, j'ai une maman qui est prof de français. Donc, il y avait beaucoup de livres à la maison. Il y en a toujours beaucoup. Même peut-être un peu trop, si c'est possible. Mais par contre, avec moi, ça n'a pas pris. Je n'aimais pas lire. Genre, vraiment, je détestais ça. Et bon, elle a essayé vraiment de me convaincre. C'est-à-dire qu'à Noël... À mon anniversaire, on m'offrait tout le temps des livres et j'avais dû faire expressément la demande que j'en voulais pas parce que je ne lisais pas de toute façon, car j'étais incapable de rester assise dans un fauteuil en train de lire ou alors allongée sur mon lit, c'était vraiment impossible. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est lecture, en fait, je m'y suis mis très tard, vers la fin de mes études.
Et à quel moment tu as trouvé des livres qui te correspondent vraiment?
Et seulement vers la fin de mes études. Donc j'ai passé le concours pour devenir professeur d'histoire-géographie. Et en fait, j'ai dû lire d'une année sur l'autre. J'étais à zéro livre par an. Et l'année où j'ai passé le concours, j'ai dû en lire une trentaine. Donc pour moi, ça a été un peu un électrochoc. Et en fait, à ma grande surprise, lire des livres sur la démographie en Inde ou alors sur... les mobilités en Afrique subsaharienne, par exemple, j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais que dit comme ça, ça a l'air un peu chiant. Et des fois, quand j'en parle avec mes amis, ils me regardent avec des grands yeux écarquillés. Mais voilà, j'aime bien les livres comme ça, qui parlent du monde, des sociétés, de ce qui se passe. Et j'aime pas vraiment, en fait, les romans, les essais, les choses comme ça.
Alors moi, je te remercie de le dire parce que... Nous, on fait un podcast sur la poésie, sur la littérature, et en fait, ça, très vite, ça peut faire peur aux gens avec l'idée comme quoi on est censé avoir dévoré des dictionnaires, adoré lire, etc. Et non, à un moment donné, justement, on n'est pas censé avoir lu Proust pour être légitime d'avoir un avis sur la culture, parce que tout est culture, justement, et toi, donc, dans tout ce cheminement avant de passer ton concours, c'est quoi le déclic à un moment donné qui a fait que tu as pu t'intéresser à de la culture en dehors des livres de tes parents, justement, parce que ça, c'était pas ta cam. C'est quoi qui a été ta cam avant le concours, que ce soit à l'Aksou, tu passais quoi tu faisais quoi de tes journées,
ouais,
justement?
Alors, du coup, à l'Aksou, je sortais beaucoup dehors, au bosquet, dans les parcs, etc., avec mes copines, qui sont toujours d'ailleurs mes meilleures copines.
C'est trop bien, tu vois, c'est ça, cool. C'est de la culture,
voilà.
En fait, justement.
Donc on se baladait un petit peu à droite, à gauche, dans les sentiers de l'Aksou, etc. La sortie du samedi, quand on était petite, au collège, on essayait d'aller au cinéma. Donc voilà, c'était sympa. On écoutait un peu de musique, mais sans plus. Le premier concert que j'ai fait, c'était en quatrième, c'était pour aller voir Tokyo Hotel.
on a tous des défauts. Hein.
Oui, voilà, oui, c'est ça.
On ne jugera pas. Ça. Moi, l'un de mes coups de cœur, j'ai honte de l'aimer, mais moi, c'est ma meilleure amie de Laurie. Tu vois, si je l'entends à la radio.
Bah, j'étais fan de Laurie.
Mais
aussi.
C'est le feu, je te jure, c'est le feu, cette chanson-là, cet artiste-là, elle est incroyable. Donc, voilà, on a tous nos casseroles, ne t'en fais pas.
Mais. Donc, voilà, c'était plus sortir, faire beaucoup de sport aussi. J'ai fait beaucoup de volets quand j'étais jeune. J'en fais toujours beaucoup, le mardi, le jeudi, le samedi. Donc ça fait quand même un bon planning. Et puis ensuite, mes parents, ils sont un peu fous. C'est-à-dire que par exemple, on part tous les ans en vacances voir ma mamie à l'île de Ré depuis que je suis née.
Ouais.
Et mes parents, en fait, quand j'étais petite, ils ne voulaient pas passer par l'autoroute. Donc en fait, on passait par les petites départementales et on allait dans je ne sais pas quelle ville visiter le musée de l'égouttoir. Enfin, vraiment des choses...
Mais ça, c'est ouf. Ça, c'est un truc impressionnant. Enfin, incroyable parce que du coup, ça fait justement découvrir des patelins, des paysages que d'autres ne verraient moins, en fait. C'est une richesse culturelle impressionnante, en fait, l'air de rien.
Ah oui, bah... Je sais que ma maman va écouter ce podcast et elle va dire « Ah, tu vois, je t'avais dit, c'est une richesse. »
Et quand vous faisiez tous ces trajets, c'était quoi les musiques qui passaient dans le poste de radio ?
Eh bien, on ne mettait pas trop de musique.
Il n'y avait pas de musique ?
On mettait pas trop de musique, on discutait ou alors on dormait. On partait très tôt le matin, donc vers 4-5 heures du matin, on était encore petits, donc on dormait.
Et je rebondis sur ça parce que bah, justement en lien avec aussi la façon que tu as eu de nous partager tes poèmes, nous on appelle tout poème, que ce soit chanson, rap, etc. et tout, et justement je peux pas m'empêcher de ressentir une filiation qui se retrouve en équilibrisme entre chanson et rap. Et du coup moi justement j'embrayerais pour me demander quelles sont tes influences musicales, en tout cas ce dans quoi, à un moment donné, ce qui t'a marqué, qui a pu te toucher.
Je pense comme...
Mis à part Tokyo Hotel.
Ouais, à peu près à la même période, voire même, je pense, peut-être un peu avant. Évidemment, comme beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons, à cette époque-là, j'ai beaucoup écouté Diams.
C'est très bien, faut pas avoir...
Diams, mais j'aime toujours beaucoup.
Belle référence.
Ouais. On est d'accord.
J'aime toujours beaucoup. Et ensuite, j'écoute beaucoup de choses en français parce que je ne maîtrise pas très bien l'anglais. Donc plutôt en français, et c'est plus de la musique urbaine, donc du rap, du hip-hop. Enfin, je suis assez large.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette musique ?
C'est qu'au final, c'est assez diversifié. Par exemple, je peux écouter du Aya Nakamura, du Weshden avant d'aller au Chat Noir. Et puis,
Chat Noir qui est une boîte de nuit à Nancy.
Oui, pardon. Voilà. Et puis voilà. Et puis le lendemain, avant d'aller à un match de volley, je vais mettre du Caris ou du Booba. Donc c'est assez divers. Donc en fait, le fait d'avoir plusieurs possibilités d'écoute en fonction du mood qu'on a, etc., je trouve ça sympa.
Ok. En fait, ce que je trouve intéressant dans les exemples que tu viens de nous citer là, et même dans ta façon à toi de t'exprimer sur scène, en tout cas dans tes poèmes, t'as une notion de mouvement, en tout cas une notion de rythmique, parce que même là, ces artistes, ces chansons que tu cites sont des musiques d'ambiance, de club, et il y a une notion vraiment de bouger de son corps, enfin, de shaker son booty, quoi. Et ça, et je trouve que c'est vachement intéressant pour quelqu'un qui se dit que t'aimes pas forcément la littérature, etc. et tout. Dans ta poésie, t'as une façon de t'exprimer, une littérature musicale, ce que je trouve intéressante et impressionnante. Je me demande, est-ce que t'en as conscience, est-ce que tu choisis délibérément dans ton écriture ou pas, ce genre de choses-là ?
Oula, c'est une question très compliquée. Je sais pas, oui, je pense que j'en ai un peu conscience, que forcément ce que j'écris, c'est assez rythmé, c'est plutôt rythmé. Après, j'ai pas du tout de formation musicale.
Comment tu découpes tes mots, en fait ? C'était ça, en fait.
Comment je découpe mes mots ?
Pour justement qu'ils arrivent à claquer, comme tu le fais. Est-ce que c'est naturel dans ton flow ?
Parce que je sens que tu nous dis que t'as pas eu de formation musicale, et c'est impressionnant. Donc du coup, tout ça, c'est le feu, ce truc, d'où ça vient ?
Je sais pas. Mais j'essaye que ça... Oui, que ça claque.
Ça coule. Ça coule, ouais, voilà. C'est ça coule. C'est l'image que j'ai eue, en tout cas, en t'écoutant, c'était ça. un flow, qui un débit un peu qui se rapproche vraiment du hip-hop. Et j'ai l'impression que tu es à l'aise avec ça.
Après, je pense, comme j'en écoute beaucoup aussi, ça doit certainement jouer. Je dois être influencé, bien sûr, par ça.
Ouais. Ok, bah, c'est super. En tout cas, merci infiniment. Bah, avant de clôturer cette première rubrique, justement, entre les différents artistes, donc tu nous as cité Diams, Tokyo Hotel, Aya Nakamura, Caris,
Laurie.
Mais tout ça, c'est trop bien, c'est stylé. Et justement, parmi tout ça, est-ce que tu as justement une Madeleine de Proust, donc un artiste que tu peux écouter en boucle, tu t'ennuies jamais, ça t'emmerde jamais tellement ça t'accompagne tout le temps, c'est le feu.
Je pense que j'en ai deux. Ah. Aya Nakamura, j'adore, et Lucio Bukowski.
Ah, et pourquoi
Bah, c'est pas du tout le même genre musical. Aya Nakamura, clairement, c'est... Je sais pas, ça te met de la bonne énergie. J'écoute ça. Tu peux écouter ça même quand t'es triste, ça va te motiver, tu vois.
Ouais.
Et Lucio Bukowski, c'est plus par rapport à ce qu'il dit, ses textes.
Rap très conscient, très bien écrit aussi. Ouais. Un grand artiste, un peu sous-côté d'ailleurs.
Je suis d'accord.
Et enfin, est-ce que tu aurais justement, que ce soit de Aya Nakamura, Lucio Bukowski ou quelqu'un d'autre, une citation, une phrase d'un artiste que tu connais, qui t'accompagne?
Là, une fois un temps de réflexion.
Effectivement, c'est une question un peu piège et bâtard. Si ça ne te vient pas tout de suite, c'est pas grave. L'idée, c'est de voir, justement, est-ce qu'on a des petites phrases comme ça qui nous accompagnent à travers les différentes poésies diverses, artistes divers que l'on a pu croiser, traverser dans notre vie. Mais si,
ou une chanson en particulier.
Oui, voilà.
Là, le seul truc qui me vient en tête, c'est du Weshden.
Mais c'est trop bien, ma gueule. Donc oui, allez-y.
Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue.
Tu hors de ma vue.
Bah, c'est parfait. Ce sera la meilleure transition pour partir justement après sur ton présent, juste après le...
Virgule.
Virgule.
Ouvrez les guillemets.
Ouvrez les guillemets.
Virgule. Ouvrez les guillemets.
Virgule. Ouvrez les guillemets.
Virgule. Ouvrez les guillemets.
Littérature, le podcast poésie sur RCN.
Alors Lorraine, on va parler un petit peu de ton travail. Déjà, qu'est-ce que tu fais au quotidien et comment tu arrives à allier ton travail avec l'écriture?
Alors, mon travail au quotidien, depuis un mois du coup, je suis chargée d'action culturelle dans un service patrimoine d'une ville. Et donc en fait c'est un stage dans le cadre de mes études. Je suis en master 2 de géographie.
Okay.
Et j'ai repris en fait ces études du coup il y a un an et demi, deux ans, puisque encore avant ça j'ai été prof du coup d'histoire géo pendant quatre ans. Donc je sais que j'ai un parcours un petit peu sinueux et c'est toujours un petit peu long et un peu compliqué à expliquer, mais voilà. En ce moment, en tout cas, je suis stagiaire chargée d'action culturelle pour le patrimoine.
Et tu reviens toujours sur des cartes, en fait.
Et je reviens toujours sur des cartes, tout à fait. J'adore les cartes. C'est facile à lire, il n'y a pas de mots. Et je pense que c'est pour ça aussi que quand j'étais petite à l'école, j'adorais la géographie. Parce que l'outil principal du géographe, en fait, c'est les cartes. Et quand j'étais petite, clairement, je n'aimais pas lire. Et en fait, quand tu vois une carte, tu peux la lire. Il n'y a pas besoin de lire des mots, c'est lire des couleurs. Ouais. Lire des formes, et je pense que ça m'a beaucoup plu, et je pense que ça a guidé quand même mon orientation post-bac.
Okay. Et dans tout ça, justement, c'est intéressant parce que c'est quand même t'as quand même fait, pour quelqu'un qui n'aime pas lire, t'as quand même fait des métiers, tu es dans des métiers très portés sur les formes d'écriture, parce que, que ce soit enseignant, que ce soit justement chargé de... t'as dit chargé de...
Chargé d'action culturelle.
D'action culturelle. tu dois certainement écrire régulièrement, que ce soit des comptes rendus et autres, etc. Et, tout. Et donc, moi, je me demande, ça, c'est une écriture plus professionnelle, académique, mais ton écriture poétique dans tout ça, elle prend place à quel moment? À quel moment tu écris?
À quel moment de la journée, tu veux dire?
De la journée, de ta vie en général. En ce moment, tu as l'impression d'écrire régulièrement, ou alors tu es en panne sèche?
Déjà, j'écris depuis du coup cet été, enfin l'été dernier du coup.
T'écrivais pas avant
Non.
Tu t'es lancé comment, justement, dans l'idée, dans l'envie de commencer à écrire de la poésie?
Il y a plusieurs choses. La première, déjà, j'aime bien quand même J'adore le Scrabble. Le jeu de société, c'est une tradition familiale, que ce soit avec ma mamie, ma maman, ma marraine, ma sœur. On joue au Scrabble tout le temps, on adore.
Et en bravo plus, d'avoir survécu, parce que beaucoup de guerres et de conflits familiaux ont démarré comme ça.
Beaucoup de séparations aussi.
Et je suis très mauvaise perdante et j'ai vraiment l'esprit de compétition. Donc forcément, quand j'étais petite et que je jouais contre ma grande sœur ou ma maman, quand je perdais, ça m'énervait. Donc j'avais envie de refaire une partie et de rejouer, etc. Donc vraiment, j'adore le Scrabble. Donc j'aime quand même bien tourner les lettres, on va dire, et jouer avec les mots. Okay. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a eu aussi... j'ai un ami, en fait, qui a traversé une mauvaise passe, on va dire. Et en fait, lui, il m'a récité un texte. Et quand il a récité son texte, en fait, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi vivant.
Okay.
Et du coup, ça m'a donné envie d'écrire aussi.
Okay.
Et voilà... C'est des petites choses qui font que je me suis mise à l'écriture.
À travers les rencontres aussi.
Ouais.
D'accord. Et comment est-ce que tu déclenches l'écriture d'un texte ? Qu'est-ce qui va, chez toi, susciter une envie d'écrire un nouveau texte ?
Bah, je pense... du coup, j'y ai un peu pensé avant de venir.
Ouais.
Et je pense que... Enfin, quand j'ai relu vite fait mes textes, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai commencé à écrire dès qu'il y avait un peu une sensation de malaise. Quand je sens qu'il y a un malaise, je l'écris.
Okay. Et du coup, c'est intéressant ça, parce que justement, dans ce que tu écris, dans ce cas, dans des textes que nous, on t'a entendu là, et même nous, on t'a entendu plusieurs fois au Coiffé Slam sur la scène de Nancy, qui a lieu tous les premiers mercredis du mois au Bar Le Royal. N'hésitez pas à venir si vous en avez envie à Nancy. C'est cette notion du malaise, je me demande du coup, tu l'abordes pour crever l'abcès ou pour justement mettre ou alors enfin, pour... ouais, est-ce que tu as envie de dire les termes parce que tu veux mettre les gens dans leur merde, ou c'est parce que toi-même tu sembles à l'aise avec le malaise, je me demande où tu te situes.
Bah, c'est plus pour avoir une porter une voix, tu vois.
Okay.
Genre dire moi je trouve que là une telle situation, bah il y a malaise, et genre juste exprimer finalement le fait que moi potentiellement je me sens en malaise, que les gens autour de moi se sentent en malaise.
Ça peut être en réaction aussi à l'actualité.
Oui, ça peut.
Un sujet qui va t'inspirer ou qui va te révolter aussi.
Clairement.
Okay. Et dans tes différents processus d'écriture, je me demande aussi, c'est dans quels endroits généralement que tu écris, justement entre ton boulot, entre le temps personnel, entre justement le fait de devoir faire les courses, à manger, etc., à la maison, les amis, la famille, c'est à quels endroits où t'arrives à trouver une concentration, une plénitude pour pouvoir te faire ça?
Bah, du coup, ouais, pour écrire, j'ai vraiment besoin d'être à l'isolement, enfin d'être toute seule.
Ouais.
Et j'ai aussi vraiment besoin que mon cerveau il soit déconnecté. Genre vraiment de penser à rien. Et du coup, en fait, il n'y a pas beaucoup de situations qui permettent ça. Il y a soit le matin quand je me réveille, mais du coup, c'est galère parce que j'arrive en retard au boulot. Il y a soit. Quand
on connaît.
Ouais, bah ouais. Il y a soit quand je suis dans ma voiture en train de conduire toute seule, mais là, du coup, pour écrire, c'est un peu compliqué.
Un petit peu. Oui.
Et je pense que le moment où je suis la plus productive, c'est quand je vais courir. Mais là, du coup, pareil, je vais courir à la Sapinière. Souvent, ça donne des scènes. Je cours et puis je pense à un truc. Donc, je suis avec mon téléphone, je note à moitié, j'essaye de continuer à courir, à maintenir mon rythme. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Du coup, il y a plein de choses auxquelles je pense. Et souvent, ça passe à la trappe, parce que j'ai pas le temps de le noter.
Et tu as une rythmique particulière, en tout cas dans ta diction. Est-ce que tu as pensé à mettre tes textes en musique ?
On m'a bien sûr déjà posé la question plusieurs fois. Et j'y ai pensé. Après, pour moi, c'est vraiment le level up, ça, tu vois. Genre, je pense pas que je sois encore à ce niveau de mettre les textes en musique, surtout que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment aucune base, aucune formation musicale. Genre là. Je suis rentrée dans le studio, j'étais en mode waouh, les micros, la machine et tout. Genre, vraiment,
qu'est-ce que c'est ?
Ouais, j'ai vraiment aucune base là-dessus. Donc pourquoi pas, mais je sais pas si j'en serais capable.
En tout cas, ça germe dans ton esprit.
Ouais.
Bah, et puis surtout, en fait, tu es hautement déjà légitime, quand bien même tu ne connais pas la technique, en tout cas des outils audiophoniques, parce que justement, nous, ça nous intéresse la poésie à travers le slam de poésie, si on veut vulgariser à travers ce podcast, c'est justement parce que, en fait, contrairement à un cours de musique où il faut avoir les moyens d'avoir d'acheter un instrument de musique, de faire des cours de musique, pour de la poésie, en fait, tout ce qu'il faut à la base, c'est juste une grande gueule, tu vois. Et donc, ça, c'est aussi des notions de confiance en soi, mais en tout cas, ça ne demande pas forcément des moyens financiers. Et toi, là, c'est vachement encourageant pour d'autres personnes qui se diraient « Ouais, peut-être que je ne suis pas forcément légitime à pouvoir faire de la poésie et tout, parce que, en fait, toi, tu as démarré sur le tard. Tu nous dis que, justement, c'était il y a jusqu'à l'année dernière que tu n'écrivais pas, je crois, c'est ça ?
Ouais.
Ou, en tout cas, avant, tu n'avais pas eu d'élan spécifique. Et pour autant, putain, mais c'est ouf ce que tu fais. Et tu as déjà des gens dans ton entourage qui te disent « Mais en fait, meuf, pense à faire de la musique, parce que tu as une précision dans ton vocabulaire, une précision dans tes sujets, dans tes indignations qui font mouche, qui parlent à tous. Et c'est impressionnant, c'est puissant. Et cette puissance aussi, tu l'as notamment aussi dans ton corps, parce que dans ta façon de t'exprimer, tu vois, il y a une musicalité. Je te disais que vraiment, tu as une façon de faire de la poésie, d'ambiance comme en club, comme Aya Nakamura, comme Caris. Et je dis ça parce qu'en plus, nous, on te voit quand tu es sur scène. Même de ton corps, tu bouges un peu, tu vois. Mmh. Vraiment, tu claques des doigts, etc. Et tout, tu déhanches un petit peu.
Et pourtant, je suis timide. Hein.
Mais c'est ça qui est super, justement, de voir que cette timidité-là, en tout cas, tu la laisses te traverser. Et donc, quelle réflexion tu as sur ton corps quand tu es sur scène parce que tu n'es pas statique. Et donc, est-ce que tu as une présence, une conscience de la présence de ton corps ? Est-ce que tu as une réflexion sur ce que fait ton corps quand tu es en train de partager tes poèmes ?
Absolument pas. Absolument pas.
Je connaissais sa réponse déjà.
Ouais, quand je récite mes poèmes au Royal, par exemple, tous les premiers mercredis de chaque mois, vraiment, je suis stressée. D'ailleurs, c'est pour ça souvent que je demande de passer... plutôt à la fin, comme ça j'ai déjà pris une bière, tout ça.
C'est un très bon moyen. Moi, je dis souvent que vaut mieux prendre un petit verre avant d'aller monter sur scène.
Voilà.
Pas trop, évidemment, pas trop, oui, parce qu'il faut quand même réussir à aligner les mots, mais ça peut détendre. Oui.
Tout à fait. Et du coup, ouais, comme je suis stressée, en vrai, je pense à rien du tout. Je pense juste à mon texte. Penser à mon corps dans l'espace quand je récite mon texte.
Tu vis juste ton texte, en fait.
Bah ouais, on va dire
c'est
que
ça,
oui.
C'est comme ça, tu prépares rien, tu t'improvises beaucoup sur tes gestes ou pas du tout?
Je prépare pas, donc...
Mais c'est fou parce que pour quelqu'un qui justement, tu dis que t'es timide, c'est pas tous les timides qui arrivent à se laisser traverser de leurs émotions pour en tout cas les montrer face aux gens.
Et est-ce que tu ressens de la peur avant de monter sur scène?
Oh, mon rythme cardiaque, il est à 150. Genre vraiment, faut que j'aille chez le cardiologue ou je sais pas. Mais en vrai, c'est genre j'ai le cœur qui bat vite et tout, je suis stressée, ouais.
Ouais. Mais comment tu fais pour tenir bon ? Comment tu fais pour... pourquoi est-ce que t'as ce sentiment de reviens-y ? Pourquoi t'y reviens encore ? C'est ouf, quoi. C'est, faut être taré un peu ou maso,
ouais,
quoi.
Ouais, un peu. Bah, j'aime bien venir genre écouter les autres aussi, c'est sympa.
Ouais.
Et quand on écoute les autres et que, bah, par exemple, Théodora... qui est venu sur l'émission là du podcast la dernière fois, bah quand on l'écoute, on se dit ouais, c'est incroyable. Moi aussi, je veux faire aussi bien qu'elle. Je veux tout donner, etc. Et comme en plus j'ai l'esprit hyper genre compétitif et tout, je suis vraiment en mode je rentre dans l'arène, tu vois.
Ouais.
Et genre je veux tout défoncer, quoi. Mais en étant un peu stressée quand même.
C'est ce rapport au public là, tu le découvres depuis peu. Et qu'est-ce qui te plaît justement? Dans le regard des autres, dans peut-être les échanges que tu as pu avoir en sortant de la scène, qu'est-ce que tu as déjà eu comme retour ?
J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent c'était super, etc. Il y a même samedi soir dernier, je suis sortie et je me suis même fait interpeller dans la rue et on me dit oh, t'es pas Lorraine du Royal, etc., etc. J'étais en mode oulala.
Un nom à particules, tu sais, Lorraine du Royal.
Lorraine du Royal, ça y est, tu vois, ça commence. C'est une coup de neige, c'est cool.
Voilà. Non, mais en vrai, ça fait un peu bizarre. Mais après, c'est vrai que du coup, quand je récite mon poème, je crois que je ne fais pas attention au public, à part aux gens qui m'accompagnent, donc mes potes qui viennent me voir, où j'essaye de capter leur regard, etc. Mais sinon, c'est vrai que je fais pas trop attention aux autres.
De façon informelle, tu viens de donner un super conseil rassurant pour plein de gens qui auraient peut-être des timidités, des fragilités à l'idée de monter sur scène, de parler devant des gens. C'est que c'est toujours important de pouvoir s'appuyer sur ses adjuvants, sur ses camarades, les sauces, la famille. Et donc, si vous avez... Non, mais franchement, de ouf, il faut le dire. Ouais. Parce que si tu as la chance d'avoir au moins un pote, une maman, une grand-mère qui est là, etc. et tout... Concentrez-vous sur les potes qui, eux, ils vous soutiennent. Et même si après, ils vont vous tailler, ils vont se moquer. Ah, t'as bégayé, etc. Ou alors, au contraire, ils vont dire vas-y, continue. C'est important parce que, bah ouais, effectivement, quand t'as une foule devant toi, c'est tellement effrayant que.
Mais ça rassure quelque part aussi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Pour ça, je pense qu'au début, quand tu commences, il faut jouer dans des lieux que tu connais un petit peu, où t'as des gens qui peuvent venir te voir.
Mmh, complètement.
Mais clairement, moi, j'aurais jamais pris le micro. Si la première fois, il n'y avait pas ma pote Clara qui était là. Enfin, clairement, si j'avais été toute seule, sans pote, rien. Genre, jamais de ma vie, j'aurais récité quoi que ce soit.
Et sur ces textes-là que tu commences à dire maintenant, que, sur les différents retours que les gens te font, comment tu réagis quand on te fait des compliments ou alors des insultes? C'est déjà arrivé. Quel genre critique, de retour on te fait? Et toi comment tu reçois les compliments ou alors les insultes vis-à-vis de ta poésie?
Ouais, bah je suis hyper gênée quand on me dit ah c'était super et tout, bah genre ça me fait très plaisir et merci parce que c'est très bienveillant et ça encourage à continuer, mais je sais pas quoi dire. Hein. C'est un peu comme tu sais à ton anniversaire quand tu reçois des cadeaux et que tout le monde te regarde en train de déballer le cadeau et genre moi ça me gêne beaucoup ce genre de situation.
Franchement, sur ma vie, je suis comme toi, mais plus le temps passe et plus je me dis comment ça se fait que ce soit si difficile de recevoir un compliment. Parce qu'en vrai, à travers ta poésie, tu fais un truc de fou, parce que c'est-à-dire que les gens se retrouvent dans tes paroles, sont d'accord avec toi, et en fait, ils sont même reconnaissants parce que tu viens de dire, en fait, ils l'ont ressenti, ils l'ont vécu, ils se sentent moins seuls. Et comment ça se fait que du coup, tu sois mal à l'aise? C'est quoi? D'où vient ce malaise?
Je sais pas, c'est essayer de rester humble. Je sais pas, en vrai,
enfin, je sais pas, est-ce que tu serais plus à l'aise avec un sale pute? T'aurais pas dû dire ça
Bah, en vrai, genre, s'il y a quelqu'un qui vient me dire sale pute, nanani, nanana, moi je vais le démarrer au quart de tour, par contre. Non, mais... En vrai, voilà, faut savoir réagir aux non-compliments.
Ouais. Et. Outre toutes ces évolutions dans la poésie et dans la scène, y a aussi, je ne sais pas combien de temps on va continuer à la poser, mais c'est bien de temps en temps pour leur demander. On a tous traversé justement aussi ce moment particulier de Covid, du confinement. Toi, comment est-ce que tu as traversé ça artistiquement? Est-ce que tu écrivais déjà? Est-ce que ça a été des moments où tu as pu essayer de projeter un peu dans des réflexions qui ont pu amener à de la poésie ou pas? Toi, comment tu l'as vécu?
Du coup, pour le confinement, en fait, quand il y a eu le premier confinement, donc j'étais enseignante en Seine-Saint-Denis, je suis rentrée chez mes parents qui habitent à Nancy, et du coup, d'un point de vue personnel, très bien, j'étais avec mes parents, etc. Ouais. C'est vrai que d'un point de vue professionnel, ça a été très compliqué parce que très, très difficile de rattraper mes élèves.
Ouais.
Ils n'avaient pas forcément accès à Internet, à un ordi, etc. Mmh. Donc, ça a été compliqué. Ça m'a demandé beaucoup d'heures de travail pour essayer de faire les cours en distanciel, etc.
Et on en revient à ce que je disais sur le fait que la poésie, c'est, en tout cas le slam, soit accessible parce que le confinement, ça a renvoyé plein de foyers à la notion d'avoir des outils informatiques. Mais c'est pas donné à tout le monde, ça coûte cher et plein de foyers n'avaient pas forcément des ordinateurs, des téléphones, une connexion internet suffisante pour toute la famille. Et donc je comprends tout à fait que ça ait pu être difficile d'essayer d'accompagner les jeunes derrière.
C'est là qu'on a vu le gouffre numérique, je pense, entre ceux qui pouvaient suivre et puis les autres. Ça a été une expérience plutôt difficile du coup de pas pouvoir être auprès de tes élèves.
Ouais, c'était compliqué parce que bah en fait on fait un boulot et puis bah on se sent un peu impuissant quoi.
Comment tu occupais tes journées alors quand tu étais pas en visioconférence avec tes élèves?
Ouais, bah j'étais comme on pouvait pas faire grand chose, j'écrivais pas encore à ce moment-là. Ouais. Donc moi ce que je faisais c'est que j'allais courir. J'allais courir à la Sapinière. Ouais. J'ai fait toutes les rues de l'Axo, à droite, à gauche, etc. Vraiment, j'allais beaucoup, beaucoup courir. Et quand on a été déconfinés, vers fin juin, je crois, c'était.
Ouais.
Là, pendant 2 mois, c'était parti. Fête, fête, fête. Genre, j'ai vraiment fait que la fête. En vrai, pendant 2 mois, c'était assez sportif, dans tous les sens du terme. Donc voilà, mais c'est vrai que pendant le confinement, j'ai pas eu vraiment de...
C'est drôle parce que ça me fait écho à travers ce que je ressens dans ta poésie, parce que souvent j'ai l'impression de ressentir une sorte d'urgence de dire, d'urgence de rattraper des choses qui n'ont pas été dites, ou pas dites suffisamment, comme si tu sortais d'un déconfinement. En tout cas, t'as justement cette puissance en toi quand tu t'exprimes, parce qu'on sent que ça y est, là on va sortir les vannes, on va tout défourailler parce qu'on n'a plus le temps. Et c'est intéressant, je me demande est-ce que t'en es consciente, d'où est-ce que ça vient besoin de tout péter comme
c'est
ça?
C'est un geyser.
Venant de quelqu'un qui est timide, en plus, justement, tu vois.
Bah, en vrai, j'en ai aucune idée. Je réponds à toutes tes questions, mais non, je sais pas. Peut-être, je suis pas très grande, je suis une fille, ça s'entend peut-être pas, mais c'est vrai que j'ai une petite voix dans la vie de tous les jours, je parle pas très fort. J'ai pas forcément trop de présence ou de charisme. Donc voilà, je me fais souvent couper la parole, ce genre de choses. Donc forcément, ça, au bout d'un moment, on peut se dire un peu « Allez, je vais m'y mettre et faire en sorte qu'on m'entende. »
Et là, tu penses avoir trouvé ton espace de parole et de liberté avec la scène?
Ouais, pour le coup, ouais, parce que personne ne te coupe la parole, donc c'est cool.
Bah, merci infiniment. Bah, justement, nous-mêmes, on ne va pas te couper la parole, au contraire, on va te la rendre. On va te permettre de pouvoir enchaîner justement sur d'autres parties de poèmes après la rubrique.
Point à la ligne. Alinéa.
Point.
Et trois petits points.
Alinéa. Et trois petits points.
Point à la ligne. Alinéa. Et trois petits points.
Littérature, le podcast poésie sur RCN.
Mon flot s'étale aussi, abonde, amanque, mon flux, pendant, ma période de menstrue, mon dos fait la corrida, bombarde dans mon plexus, quand sang lâché de mon utérus, dans deux, tenter mon tanga, mais le tampon, tampax, accès d'un tantinet toxique, le temporise et le tétanise, pas façon tétanos, mais plus à la sauce de l'endométriose. Et ma cape rouge de matador devient ma cape rouge d'impérator, justice romaine sera rendue style pro, c'est médiator, quand un pléthore de sœurs donne orator au blanchiment par chlore permettant de chlore ce rapport à nos corps. Je m'en fous de la prose, de mon code rouge de chez Dalloz. Je veux juste que soient inscrits les réparations des ecchymoses. En attendant d'être disposé, en attendant la ménopause, on chope le taureau par les cornes pour contrer cette montée d'hormones. Les onomatopées style aïe, ouïe, je bobo, là se transforme en tic tac, l'horloge bio bientôt K. Oh, à skip, je produis plus d'oestrogène que de spermatozoïdes. Du coup, mon seul liquide, c'est celui dans mon bide. Ils sont malins après le coton sous vide pour absorber tout mon fluide. Ils essayeront sûrement de me refiler leur dernier antiride. J'ai un vagin, je peux être enceinte. J'ai pas d'argent, je peux pas m'acheter l'enceinte de chez Bose faisant résonner tous mes mots. Même sans ça, désolé. Mais je crois bien que je vois trop ma vie en taxe rose pour m'écraser devant cette putain de cause. On se fait vampiriser toute notre santé. Tous nos billets, c'est pas normal, tu crois que je suis Bella dans Twilight? Monsieur les députés, à quand la dignité pour se protéger? Objet de première nécessité, penser à légiférer leur gratuité, même après 25 balais. Septembre de K2. Hein, je redeviens cette étudiante qui n'a plus rien, cette étudiante du quotidien prête à fêter sans lendemain. Mais septembre de K2, 2. L'inflation, troumar, reconversion, finil, synthé, million, de shell, tonton, je suis prête à sortir mon fusil pour mon paquet de fusili, à devenir slameuse pour mon petit verre de chartreuse, à mytho les impôts pour payer mes cours magistraux. Et pour cet hiver, ça va être la galère. Allumer le radiateur ou recharger l'ordinateur. Le dilemme me fait peur et nos législateurs légèrement provoqueurs nous disent ranger notre débardeur pour des pulls au col bien moins provocateurs. Pourtant, on a du cœur, on pédale dur pour Uber pour mettre du beurre dans le repas de nos petites sœurs. Et certes, conscientisent leur tisse car tu te scolarises, mais c'est la crise. Plutôt que de se sentir en déprise, ils préfèrent que leur foi fonde plus vite qu'un Mr. Freeze. Certains poteaux de la fac de Géo pensent même à devenir gigolo. Après tout, il y a bien des étudiantes mendiantes qui sucent les bourses de Monsieur Crouse pour un peu plus de flouze. Jambon ou bien tampon, serviette ou bien paupiette. Dans tous les cas, c'est la carence ou la carence alimentaire qui te guette. Je me sens un peu précarisée comme à Aubervilliers. Je me sens un peu moquée. Sur le campus de l'avenue de la Libé, on est 10 000 scolarisés et pour manger, on nous propose des panini poulet. Bref. Je crois que les études, c'est un peu rude, qu'étudier, c'est assez compliqué, surtout quand on n'a pas de monnaie. 9 novembre, dans le cœur des Berliners, la chute du mur me chuchote, mener une vie sans censure. J'ai bientôt 28 ans et tout ce qu'on me dit maintenant, je m'en carre le gland. Mon année des 27, c'est l'année de césure de ma vingtaine et j'ai kiffé redevenir cette Lorraine alsacienne. À 17 ans, je pensais qu'à 27 ans, je serais maman, que j'aurais des beaux enfants. La jeune en moi s'est pas trompée, la vérité, j'ai commencé cette année à materner, non pas un ni deux bébés, mais bien une bande de 20 scolarisés. Et à toutes nos soirées, je les ai couchés, vin rouge, vin blanc, rosé, ils peuvent pas me résister. Et je voudrais juste les remercier pour m'avoir redonné l'envie de festoyer. Si j'ai rédigé ce texte, c'est pour mon année des 27. Elle a filé comme une comète et j'ai brillé de 1000 paillettes comme Zendaya sur le red carpet. J'ai toujours pas pécho le diabète et j'ai perdu autant de kilos que de bougies sur mon gâteau. J'aimerais qu'on me félicite parce que ouais, 2022... J'ai réussi à faire les deux, l'étudiante et l'enseignante sans me saigner, la joueuse et l'entraîneuse sans me traîner. On a voulu m'imposer beaucoup de choix, j'ai répondu avec sang-froid, mais je l'aurais quand même toujours fait des gros doigts. J'aimerais enfin qu'on me félicite parce qu'ouais, 2022, j'ai commencé à rédiger et réciter des textes, certes pas très complexes, mais très complets sur mon année. Je suis passée à l'oral au Royal devant un public sûrement pas très banal, mais ô combien phénoménal.
Franchement, on t'applaudit, mais voilà, franchement, bow to the queen, vraiment, on te fait la révérence, c'était ouf.
Eh ben, merci d'avoir passé le cap des 27 et d'arriver sur nous comme une comète. Merci.
Franchement, impressionnant, merci beaucoup. Là, juste petit retour sur nos ressentis, des petits commentaires, des petites questions qu'on aurait à te poser. Déjà, parce que moi, je me demande du coup. Tu vas où dans la vie ? Parce que dans la plupart de tes poèmes, c'est vachement intéressant. T'es vraiment dans des questionnements de « je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je sais pas où elle va ». Et c'est vachement intéressant parce que, en vrai, on n'en sait rien, nous non plus. Et en fait, tu nous perds, nous aussi, parce qu'on se rend compte, peut-être, je suis pas sûr de m'en sortir mieux que toi, en fait. Et donc toi, jusqu'où tu vas, c'est... Qu'est-ce que tu cherches, où est-ce que t'en es ?
Je pense, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on ne sait pas ce qui nous réserve demain. Là, tu vois, pour l'instant, j'écris des textes et tout, ça me fait kiffer. Si ça se trouve, dans 2 mois, ça va me saouler, j'arrêterai, j'en sais rien. on ne peut pas vraiment prédire l'avenir, etc. J'ai pas forcément de grandes ambitions, j'ai pas vraiment de rêve particulier. Enfin, si, j'avais le rêve d'aller aux Jeux Olympiques, mais bon, il faut que je m'entraîne encore un petit peu, je pense, et que je grandisse aussi un petit peu. Mais... Voilà, mais sinon, en vrai, je suis pas trop compliquée. Mes potes, ma famille, du chocolat. Et voilà, c'est cool.
C'est eux ta boussole, en fait. C'est tes amis, c'est ça.
T'as quelque chose de fabuleux qui est dans ton écriture. Tu Alors pour moi en plus, t'as quel âge à peu près?
Bah 28.
Ouais, moi j'en ai 32 et vraiment dans ce que tu racontes, bah moi j'en ai 32 et je me suis retrouvé totalement dans cette façon de dépeindre les années 90, les années 2000 avec tout le côté un peu désenchanté qu'il y a à travers véritablement... dans tout ce que tu as mis en avant sur la Lorraine, sur la désindustrialisation, j'y arriverai pas. Mais et en fait, il y a quelque chose de poignant là-dedans parce que du coup, il y a quelque chose de vachement triste et énervant. Et en même temps, tu as quelque chose de vachement positif, optimiste. Et donc, du coup, bah ouais, tu te situes où entre ce côté désenchanté et. Cette colère, cette hargne que tu as parce que t'as envie de... Ça sent que tu veux tout retourner et tout péter en même temps, tu vois. Donc toi, ouais, tu te situes où?
Clairement, je suis côté optimiste. Ah ouais. Fou. Genre, dans la vie de tous les jours, je suis très, très calme, très, très optimiste, très positive. Je vois le verre à moitié plein. C'est comme ça qu'on dit, je crois.
C'est ça.
Voilà, c'est vraiment... ouais, je suis quelqu'un de très positif. Et après, ça, c'est pas parce qu'on est positif qu'on ne peut pas voilà, faire l'état des lieux de ce qui se passe, mais justement dire bon, bah voilà, à l'instant T, c'est comme ça. Ouais. Bah, peut-être à nous de prendre nos clics et nos claques pour que ce soit mieux plus tard.
Dans ton écriture, il y a un tas d'images, en fait, plein de choses que j'ai notées où tu évoques la manière dont on voulait que les femmes s'habillent, la difficulté des étudiants, leur précarité. Moi, je me suis pris ça un peu comme des images un peu comme au cinéma. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle dans ton écriture?
Le cinéma?
Oui.
Non, pas trop. Je ne suis pas très cinéphile.
Oui, c'est ça.
Je vais assez peu au cinéma, surtout depuis le Covid. Mais même en termes de télévision, séries, etc. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont très consommateurs de séries. Et en fait, moi, je n'ai pas le temps, je ne regarde pas trop...
Moi, ce que dit Mouloud, c'est vachement important parce qu'en fait, effectivement, moi aussi, comme lui, vraiment, tu torpilles, tu défourailles. Et en plus, nous, en tant que mecs, tu vois, ça nous renvoie à la question de nos comportements, de nos silences qui parfois peuvent légitimer certaines misogynies de notre part. Et moi, je trouve que je me demande... comment tu fais, toi, au quotidien, pour arriver à prendre position, à prendre parole? Parce que tu l'as dit, t'es une petite meuf à petite voix, pas grande et pourtant t'as pas des petites formes. Donc arriver à se faire entendre, à se faire comprendre, à se faire respecter, tu t'en sors comment au quotidien?
Après, dans la vie de tous les jours, je pense que je suis plus, je vais plus écouter, observer que parler. Voilà, donc je vais vraiment plus être dans l'écoute et dans l'observation. Me permet d'avoir un temps d'analyse.
Ouais.
Et voilà, et après, une fois que tu as ce temps d'analyse, enfin que j'ai eu ce temps d'analyse, en tout cas, forcément, ce que tu vas dire va être plus construit, plus mûri. Donc peut-être donc qu'on va plus.
Tu reviens sur tes textes un petit peu aussi, sur l'écriture, la forme, le texte ou pas du tout? Une fois que ton texte est fini, il est fini.
Ouais. Là, j'ai juste rajouté une phrase. Par rapport à l'actualité sur le remboursement des protections hygiéniques, mais c'est tout.
Et pour clôturer justement, par rapport à l'actualité, par rapport à l'avenir aussi, comment est-ce que tu te projettes justement sur tes engagements dans tes textes, justement ce que tu mets en avant, ce que tu dénonces, ce que tu défonces dans ta poésie? Est-ce que tu as des espoirs, des objectifs, des visées, des visibilités de... Un jour, quand tu pourras arrêter d'être aussi vénère, c'est quoi que tu aimerais, justement?
Je suis géographe, donc moi, je veux parler du lieu, de la vibration, des territoires, ce genre de choses.
Ouais, super. Franchement, on sera toujours là pour pouvoir t'écouter au Royal si tu continues de venir tous les premiers mercredis du mois et poursuivre ton actualité. Qui sait ce que ta poésie, là où elle te mènera? En tout cas, merci infiniment, Lorraine. T'es ouf. Ça chante, ça danse, ça bouge comme Aya Nakamura. Et franchement, c'était un plaisir de te recevoir ici à Littérature. Merci infiniment.
Merci à vous deux.
Merci, Lorraine.
Cool.
C'était un plaisir de t'entendre et de découvrir ta poésie ce soir.
Merci.
Post-crib. post-scriptum.
Post-scriptum.
Post-scriptum. Mais c'est
post-scriptum, c'est hyper difficile à dire en fait. Quand on veut bien articuler.
Post-scriptum.
Post-scriptum.
Post-scriptum. Post-scriptum.
Il m'énerve ce mot.
Post-scriptum.
Littérature, le podcast Poésie sur RCN.